Les marchés continuent de surprendre et l'optimisme est revenu rapidement malgré toute l'incertitude géopolitique. Même que certaines thématiques explosent et les investisseurs reviennent en force. Mais sous la surface, le portrait devient beaucoup plus nuancé. Cette semaine, on va parler du retour du FOMO, le Fear of Missing Out, la concentration historique de certains titres, des valorisations qui deviennent vraiment exigeantes, mais aussi des secteurs où des opportunités intéressantes demeurent encore. Bonne écoute! Cette semaine, le titre de la présentation, c'est S&P 500, euphorie, concentration et opportunité. On va passer à travers toutes les gammes d'émotions dans les prochaines minutes. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on vit vraiment une période particulière. Puis si on regarde juste en ce moment, pour ceux qui regardent notre chaîne YouTube, le tableau que vous voyez, c'est les activités des investisseurs au détail. Monsieur, madame, tout le monde, comment ils prennent leur liquidité pour investir dans le marché? Puis si on regarde les données, on est à un niveau record qu'on n'a pas vu depuis le COVID, depuis le début de 2020. Puis pour revoir cette situation-là, c'est, vous en rappelez, à la fin de 2020, début 2021, il y avait des liquidités dans le système. Les gens étaient à la maison. C'était le retour. Il y avait un engouement pour les crypto-monnaies, les SPAC, l'émission de nouvelles sociétés en bourse. Il y avait beaucoup de spéculation. On avait vu vraiment un marché très fort, très haussier. On se rappelle ce qui s'est passé en 2022. Je ne dis pas que ça va être exactement le même scénario. Mais en ce moment, il faut dire que le marché, en anglais, on dirait qu'il est vraiment « risk on ». Du moins, monsieur, madame, tout le monde, on voit clairement un momentum. Puis on pourrait déballer ça plus en détail, mais juste un secteur, moi, qui m'a frappé cette semaine dans le Wall Street Journal. On voit l'indice des FNB qui touche le secteur des semi-conducteurs. On entend parler de sociétés comme SanDisk ou tout ce qui touche, exemple, la mémoire, tous les outils qui bénéficient des investissements massifs en IA ont vraiment la cote. Et si on voit depuis les 100 derniers jours, le secteur des semi-conducteurs a une hausse phénoménale. Il faut remonter à 1995 pour voir ce genre de momentum-là. Donc, on est dans un marché où monsieur tout le monde embarque dans les mêmes idées, puis on voit vraiment un secteur momentum. C'est normal de regarder ça puis de dire « est-ce que je suis en train de manquer le bateau? » Puis ce qui se passe aussi, c'est que c'est peu de secteurs aux États-Unis qui sont populaires. C'est surtout ce qui touche l'énergie à cause du conflit en Iran, mais principalement, je vous dirais, c'est ce qui touche toute l'infrastructure d'intelligence artificielle. Et on le sait, il y a une concentration dans les indices boursiers. Pour ceux qui regardent le tableau, si on regarde les 10 plus importantes sociétés actuellement, ils composent à peu près 40 % de l'indice. Et là, c'est pour le moment. Parce que lorsqu'on imagine des introductions en bourse de SpaceX, Anthropic, puis de OpenAI, ces sociétés-là vont arriver avec des méga capitalisations. Donc, ça va encore accentuer encore plus l'impact d'une concentration dans un indice au sein d'une poignée de titres. Et là, il faut reculer en 1989, 1985, 1972, ou juste avant, autour de 1929, pour voir ce genre de concentration-là. Donc là, c'est sûr, les gens disent « Hey, ça augure pas bien. » Puis oui, on veut être lucide, on veut voir les vrais chiffres, mais il faut quand même être rationnel. L'histoire ne se répète pas toujours et à la fin, je vais vous dire comment on peut naviguer dans ce marché-là. Et ça, ce que ça fait comme effet, cette concentration-là, c'est un momentum-là, le début d'année qui est en force, fait que l'évaluation de l'indice américain du S&P 500pour le prix, le multiple qu'on achète cet indice-là pour les profits des 12 prochains mois, bien, en fait, c'est un des marchés les plus chers derrière Taïwan puis quelques autres pays qui ont des petites capitalisations. Donc, en fait, dans les pays développés, c'est vraiment le marché le plus cher. Et là, on va dire, ouais, mais c'est parce que l'entrepreneuriat américain puis le marché américain, c'est une exception, c'est différent. Puis ça, je suis 100 % d'accord. Mais lorsqu'on regarde ces valorisations-là du S&P 500, puis on ne compare pas aux autres pays, mais on regarde le deuxième tableau, puis on les compare au propre indice du S&P 500 sur un historique de 1900 jusqu'à aujourd'hui. Mais ça reste que sur toutes les métriques, que ce soit sur le multiple sur les profits des 12 prochains mois, des 12 derniers, de la moyenne des 10 dernières années, de la valeur au livre, du taux de rendement sur le dividende puis sur la croissance des bénéfices, on vient de toucher des records partout. Mais moi, ma thèse là-dedans, c'est que c'est certains secteurs, certains titres spécifiques qui ont du poids, qui ramènent la moyenne à la hausse. Parce que lorsqu'on commence à regarder le marché puis on regarde secteur par secteur ou société par société, c'est loin d'être le cas que toutes les sociétés ont augmenté, c'est loin d'être le cas que tous les secteurs sont à des prix très dispendieux. Juste cette semaine, deux secteurs que j'ai remarqué, c'est le secteur, exemple, des services financiers. Quand je parle des services financiers, je ne parle pas juste des banques ou des banques régionales, on parle des assureurs, vie, de dommages. On parle des sociétés de paiement comme Visa ou Mastercard. On parle des agences de notation. On parle de tout l'écosystème financier. Car général, c'est une industrie très rentable lorsqu'on regarde les états financiers parce que beaucoup de ces créneaux-là sont quasi oligopolistiques. Puis, si on regarde en ce moment, le secteur financier par rapport au reste du marché, il est dans une période où, selon certaines données, il est en période de survente. Même chose si on regarde l'indice équipondéré de la consommation, parce qu'il y a des géants de la consommation, comme je pense à Walmart, mais on donne un poids égal à chacun. En fait, dans le secteur de la consommation, l'indice par rapport au S&P 500 est plus bas que dans le creux du COVID, presque plus bas que dans le creux de la crise financière. On voit les données en ce moment économique. Ça ne va pas bien pour tous les consommateurs. L'inflation a un impact, les taux d'intérêt ont un impact, mais ce n'est pas vrai que dans tout cet indice-là, il n'y a pas des sociétés intéressantes. Donc, quoi faire de ces données-là? Bien, c'est certain que lorsqu'on entend ça, moi, ce que je dis aux gens, c'est prudence. Parce qu'il y a un marché où il y a un fort momentum, comme on a vécu récemment en 2021, où on a vécu dans le passé. Il faut se rappeler que cette cadence-là, à un moment donné, ne sera pas permanente. Puis, on ne veut pas être dans ces sociétés-là où monsieur, madame, tout le monde achète à n'importe quelle valorisation parce que la chute pourrait être brutale. Cependant, ce n'est pas le temps d'essayer de timer le marché puis sortir et rentrer du marché. Les études le montrent, ce n'est pas une stratégie gagnante. Par contre, pour l'investisseur qui veut trouver et qui veut rester investi pour les 10 prochaines années, il y a encore des places où il y a des escomptes, mais il s'agit vraiment de bien faire ses devoirs. Je vous remercie. On se reparle la semaine prochaine.